Radio Classique, les spécialistes.
7h40 sur Radio Classique, impasse, dialogue de sourds, jeu de dupes, théâtre du rien. Voilà comment la presse ce matin relate la rencontre hier à Matignon entre Elisabeth Borne et les syndicats. 55 minutes d'inflexibilité des deux camps. Bonjour Jean-François Madieu.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à l'école de management de l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste des relations sociales. Qui sort le plus affaibli de ces rencontres hier? Qui a perdu finalement, qui a laissé le plus de plumes dans ce dialogue de sourds?
Sans surprise, c'est la Première ministre tout de même, puisque même si tout finalement s'est passé comme prévu, pas spécialement mal. Chacun savait que ce serait un rendez-vous courtois de brève durée pour ne rien se dire.
Voilà, on se demandait combien de minutes.
Oui,
si
voilà.
Ça allait, voilà.
C'était et ça, quand le vous regardez, suspense. Voilà le suspense. Et effectivement, la durée est convenable. Les choses se sont passées comme prévu. Chacun a pu rappeler ses positions. Mais on n'en attendait rien d'autre en réalité. Par contre, pour les organisations syndicales, c'est un peu mieux parce que elles ont pu montrer. C'est ça le point important. Une très forte unité, une intersyndicale robuste. Tout ça a été très bien coordonné, emmené par la CFDT, c'était logique. Donc c'est plutôt ces images-là. Vous voyez l'arrivée de Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT avec Laurent Berger, etc. Donc de ce point de vue, c'est peut-être plutôt de ce côté-là qu'il y a une communication qui est favorable.
Laurent Berger qui a eu des mots très directs hier parlant de crise sociale qui se transforme en crise démocratique.
Oui, effectivement les.
C'est la CFDT qui le dit, hein. C'est pas le discours de la CGT. C'est ça aussi qui peut aussi étonner peut-être.
Oui, alors il faut dire que toutes les organisations syndicales, Laurent Berger avait souvent rappelé qu'effectivement c'était le problème. Sophie Binet l'a rappelé aussi. Beaucoup indiquent que c'est pas juste un conflit social sous ses formes classiques, parce que il y a la prise de décision politique, le recours en la circonstance à une procédure accélérée au 49-3, là c'est effectivement une difficulté de nature politique.
Ouais. Voilà,
d'où le fait qu'il emploie le terme de crise démocratique, voilà, ce qui lui est reproché.
11e jour de mobilisation aujourd'hui. Alors après justement cet échec attendu à Matignon, on va vraiment compter aussi le nombre de grévistes, c'est-à-dire que cette journée elle va être importante ou pas pour vous, Jean-François Madieu.
Non, nous ne sommes pas dans un cas de figure qui ressemble au conflit que nous avons connu depuis des années, des décennies même, en matière de grandes réformes sur les retraites ou sur la loi travail ou etc. Pourquoi? Parce que l'issue du conflit ne dépend pas du fait que la France est à l'arrêt, qu'il y a des grèves nombreuses, qu'on bloque les transports, etc. Ça n'est pas spécialement le cas actuellement, on le sait, et aujourd'hui il y aura pas des masses de grévistes avec une France à l'arrêt. Ce n'est pas non plus le nombre de manifestants. D'ailleurs, certes, il est très élevé. Aujourd'hui, il le sera sans doute encore. Mais finalement, c'est pas vraiment un élément important qui serait de nature à faire bouger l'exécutif. C'est pas parce que vous mettez 600 000 ou 1 million ou 1 million 2 dans la rue que ça va changer quoi que ce soit. Et quant à la popularité des manifestations et l'impopularité de la réforme, c'est déjà acquis depuis longtemps et ça ne change pas. Donc, de ce point de vue, c'est pas ça qui fait la différence.
Ce qui peut faire la différence, c'est les décisions du Conseil constitutionnel.
Exactement. On n'a jamais été dans.
C'est la clé pour vous.
Mais évidemment, c'est la clé. D'ailleurs, tout le monde le sait, y compris au sein de l'exécutif. Si vous voulez, on n'a jamais été dans une situation où se pose l'éventualité de l'invalidation de tout ou partie de la réforme des retraites, et deuxièmement, l'éventualité, c'est plus que probable, d'un processus de référendum de RIP. Alors là, évidemment, c'est complètement nouveau. Alors, les partenaires sociaux, les organisations syndicales et le gouvernement, bien sûr, anticipent sur les événements, les décisions du Conseil.
Oui.
Bon. Et quand vous anticipez ce qui pourrait se passer et que décidera le Conseil constitutionnel, évidemment, ça amène mécaniquement a commencé à réfléchir à une manière de sortir du conflit pour l'exécutif, c'est-à-dire, soyons clairs, mettre sur pause, ce qui sera probablement inévitable, ou mettre sur pause sans le dire une réforme, rétro-pédaler sans le dire tout de suite et en le faisant progressivement, mais c'est à peu près mécanique. Prenons un exemple, si le Conseil constitutionnel, comme l'a rappelé d'ailleurs Laurent Berger hier, si le Conseil constitutionnel ne validez pas certaines dispositions de la loi, sans imaginer que l'ensemble soit invalidé, ouais, mais ouais. Imaginons que ce soit certaines dispositions, index senior, ouais. etc. Ce qui là est quand même assez probable. Eh bien, dans ce cas, Laurent Berger a bien expliqué qu'il y avait un déséquilibre dans le texte. Il n'est plus équilibré, il n'y a plus du salé et du sucré. Dans ces conditions, il faut reprendre les discussions. Le compromis, qui était un compromis autour de ces dispositions, ne tient plus, donc il faut recommencer. Et puis, bien entendu, s'il y a référendum, là, c'est complètement nouveau. Tout dépend de ça, parce que, évidemment, les organisations syndicales ont bien expliqué qu'un référendum serait couronné de succès. C'est vrai que 7 Français sur 10 indiquent déjà qu'ils...
Oui, on peut le penser aujourd'hui.
Ah bah 7 Français sur 10 disent qu'ils iront voter, que bien sûr ils sont favorables à ce référendum, même s'ils ont des doutes sur le fait qu'on arrive à le faire finalement, mais ils en ont envie. Donc, vous comprenez bien que du coup, promulguer un texte et surtout sortir les décrets d'application ne sera pas possible. Je voudrais vous signaler qu'il est possible, c'est une des hypothèses, que dans le cas où il y ait un processus de promulgation de la loi, le gouvernement peut aussi utiliser cette ficelle ou cette astuce qui consiste à ne pas sortir de décret d'application. Je rappelle qu'en 2006, on fait souvent référence au CPE, mais dans la loi Égalité des chances, il y a eu le CPE, où effectivement, après le vote de la loi, elle n'a pas été mise en œuvre. Mais il y avait une deuxième disposition, c'était le CV anonyme en 2006. Ouais. Et sur le CV anonyme, vous savez ce qu'ont fait les gouvernements successifs. Pendant 8 ans, ils n'ont jamais sorti les décrets d'application. Ce qui fait que la loi, un autre aspect de la loi de 2006, n'a jamais été mis en œuvre. Et finalement, la loi a été abrogée en 2015, 9 ans après. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce que vous promulguez que vous appliquez. C'est encore une autre possibilité quand on veut ne pas mettre en œuvre un texte. Et on l'a fait en 2006 de deux manières différentes. Donc, on a des précédents. Donc, si vous voulez, la décision du Conseil, elle est absolument décisive dans notre affaire. On n'a jamais eu ça précédemment.
Et voilà, ça va se faire dans 8 jours. Ça risque d'être peut-être un peu long encore, et pour les syndicats et pour l'exécutif. Merci, Jean-François Madieu, d'avoir répondu à mes questions ce matin dans Les Spécialistes. Dans un instant, c'est Marc Bourreau que vous allez retrouver pour son journal imprévisible. Emmanuel Macron est en Chine. Cela n'a échappé à personne et surtout pas à Marc. Il est 7h47 sur notre antenne.